Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, va faire une annonce concernant cette fameuse nouvelle stratégie là, d'alerte, des zones d'alerte avec des couleurs. On va faire le bilan également de la situation COVID au Québec. Il y aura le docteur Horacio Arruda. On va diffuser ça, nous, dans quelques minutes en direct. Donc, vous êtes au bon endroit. En attendant, Marjolaine Aubé, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du CIS de Laval, affilié CSN. Yves Desjardins est président, directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Tous les deux, je commence par vous, Yves Desjardins, juste avant là, qu'on entende le ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il nous explique aujourd'hui rapidement?
Bien, écoutez, on a eu les détails du plan un peu plus tôt, il y a quelques semaines. Maintenant, qu'on puisse le diffuser rapidement à toutes les résidences là, pour connaître toutes les composantes de ce plan-là. Mais encore une fois, je le dis, là, c'est une belle préparation. Moi, je crois que avec ce plan-là, on va pouvoir agir pour toute la province à la fois, mais bien cibler les actions aux endroits où il y a des éclosions là, pour endiguer le plus possible ce que j'appelle ce maudit virus.
Oui. Et là où il y aura des éclosions, vous souhaitez qu'il y ait un confinement partiel, total? Comment vous voyez ça, M. Desjardins?
Ah, pas nécessairement. Puis on a vu, là, les conséquences sont désastreuses pour les résidents. Mais je pense qu'on se doit d'interdire les visites, on se doit de poser des gestes, d'être plus prudent, de désinfecter, d'appliquer les mesures sanitaires. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on met en place justement pour éviter ce confinement-là, parce que les effets sont néfastes chez les aînés.
Mm-hmm. Marjolaine Aubé, vous êtes présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du CIS de Laval, où vous rappeliez d'ailleurs qu'à l'hôpital de la Cité de la Santé, il y avait certaines unités en éclosion. Évidemment, bon, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation des gens non plus qui sont à l'hôpital aux soins intensifs, heureusement. Donc, ça, j'ai en tête le commentaire de Richard tout à l'heure qui nous disait il y a peut-être plus de peur que de mal, heureusement, mais quand même, est-ce que... avez-vous l'impression qu'on est en train de céder à une certaine panique et que ce n'est pas justifié?
Non, moi, je vous dirais, il y a tellement eu de travailleuses et de travailleurs d'infectés. Ce qu'on parle le moins, c'est le après. La plupart des gens qui ont eu le COVID, que moi, je connais, à qui j'ai parlé, sont restés avec des séquelles. Voilà. La plupart disent qu'ils restent essoufflés. Il y en a plusieurs qui ont des lésions aux poumons. Ouais. Donc, dans l'avenir, comment ça va se détériorer, on ne sait pas. Donc, c'est pas juste tu as eu le COVID puis c'est fini, c'est réglé. Mm. Non, c'est que tu restes avec des séquelles de ça. Et puis, tu as toujours la crainte, tu sais, en tant que travailleur, de ramener ça chez toi. Tu peux avoir quelqu'un dans ton entourage qui est diabétique. Non, faut pas prendre ça à la légère. Plus peur que de mal. Non, c'est qu'on le connaît.
Voilà. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci beaucoup, Marjolaine Aubé. Merci, Yves Desjardins. On va entendre tout de suite le ministre Christian Dubé.
Merci encore d'être là, mais surtout de pouvoir présenter un autre membre de l'équipe de santé publique, M. Litvak, qui est en fait un des grands responsables de la stratégie qu'on va présenter aujourd'hui, la stratégie régionale de niveau d'alerte. Alors, on trouvait important que les gens prennent contact une première fois avec M. Litvak. Alors, je pense que vous le savez, on se prépare depuis plusieurs mois en prévision de la deuxième vague. Aujourd'hui, on va vous présenter un outil qui va non seulement guider nos actions, mais nos décisions dans les prochains mois. Je parle d'un système d'alerte qu'on va appeler un système d'alerte régional et d'intervention à quatre paliers. Je pense que la plupart des journalistes ont pu en prendre connaissance là, dans la dernière minute, la dernière demi-heure. Notre gouvernement veut, je veux qu'on atteigne deux objectifs avec ça, qui sont pour moi et pour notre gouvernement très importants. Ce qu'on entend depuis la première vague, c'est que les gens veulent avoir une meilleure prévisibilité, d'être capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, on a confiné rapidement, déconfiné, mais c'était difficile d'avoir une prévisibilité. Fait que ça, c'est le premier point. Mon deuxième objectif, c'est d'être capable d'aider la population à se responsabiliser dans ce contexte de pandémie. Donc, je résume, responsabilisation puis prévisibilité. Il n'y a personne, en fait, qui veut retourner à un confinement comme celui qu'on a eu au printemps dernier. Bon. j'espère que oui, ça va. J'espère que les gens à la télé peuvent suivre les j'allais dire les acétates, ça trahit mon âge. OK. Le système d'alerte régionale qui a été développé est un système d'alerte qui va permettre à la population, comme je l'ai dit, de nous suivre, mais aussi pas juste à la population, mais aux entreprises, parce que on l'a vu, il y a eu des impacts économiques, il y a eu des impacts sur notre système de santé. Donc, encore une fois, la question de prévisibilité est importante. Puis, ce que vous voyez à l'écran ici en ce moment, c'est qu'on part du principe que les consignes de base que vous voyez, là, même s'il y a bien des gens qui n'aiment pas l'expression, c'est notre nouvelle normalité. On est parti d'une normalité, notre vraie vie, là, il y a 6 mois, c'est loin, là, mais on était là. Il y a eu un confinement important, massif, en quelques jours, quelques semaines. Et au cours de l'été, on a remonté. C'est la courbe orange que vous voyez. Alors, la nouvelle normalité, je pense qu'on a réussi à gagner, même si elle ne fait pas notre bonheur. C'est vraiment là qu'on est, dans cette nouvelle normalité-là, avec, vous le voyez, dans la deuxième phase des hauts et des bas qu'on voit, là, ce que le docteur Arruda appelle les vaguelettes. Hein? Bon. Par contre, on sait que le virus, son évolution, ne se fait pas partout de la même façon. Et que, malheureusement, le respect des consignes sanitaires ne sont pas suivis dans toutes les régions de la même façon. Puis ça, c'est vraiment important qu'on revienne là-dessus. Donc, je vais aller à notre deuxième graphique. Le système d'alerte qui a été développé par la santé publique il y a quelques mois, donc, et on y travaille depuis plusieurs semaines, vous verrez tout à l'heure quelques conclusions. On l'a appelé un système à 4 paliers, justement pour être capable d'avoir de la prévisibilité. 4 paliers, la vigilance où on est présentement dans la plupart des régions, palier vert, la préalerte que vous voyez, le palier jaune, l'alerte modérée, palier orange, ça commence à être un petit peu plus très sérieux, puis l'alerte maximale où on ne veut vraiment pas aller. Puis c'est un peu comme je vous avais expliqué la semaine dernière, le même que pour les systèmes de feux de forêt, là, une progression. Bon. Le deuxième palier, pour moi, c'est un premier signal d'alarme. Ça veut dire qu'en fait, que la transmission commence à s'accroître, puis qu'il va falloir redoubler d'efforts. Vous allez le voir tout à l'heure, on a déjà des régions qui sont dans le jaune. Malheureux, là, mais c'est notre réalité aujourd'hui. Puis les paliers 3 et 4, soit orange et rouge, bien, c'est une intensification progressive. Puis tout à l'heure, Dr Arruda puis Dr Lidvac pourront répondre plus spécifiquement à ce que ça veut dire. Bon. Un autre graphique. Bon, je vous ai parlé des 3 paliers. Maintenant, parlons des critères. Il y a plusieurs facteurs qui vont nous permettre de suivre l'évolution de la pandémie, puis on va être très transparent de la façon dont on va le faire avec les gens. Pour qu'une région qui passe d'un palier à l'autre, voici ce qu'on va regarder. Bon, premièrement, la situation qu'on appelle épidémiologique. Le contrôle de la transmission, c'est le deuxième critère. Puis le troisième, c'est la capacité du système de soins. Bon. Il y a aussi, puis ça c'est très important, c'est pas si c'était dans un ordinateur pour qu'on pouvait mettre nos données, ça serait plus facile, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il va y avoir des analyses qualitatives qui viennent compléter ces indicateurs-là. Parce que 3 critères, c'est bon, mais je pense qu'il y a des situations qui sont propres qu'on pourra discuter tout à l'heure. Donc, en fait, je résume, on a donc une multitude de facteurs que nous allons interpréter en fonction des enquêtes qui se font sur le terrain. Je veux insister ici sur un point. Ce que je présente, c'est nos critères de base qui nous permettent de voir les choses arriver, de mieux voir les tendances. Et c'est pour ça que dans le milieu du graphique, vous voyez autant des tendances à la hausse comme à la baisse. Puis, rappelez-vous, quand il y a quelques semaines, on a commencé à vous parler du fameux nombre de cas par million, bien, c'était de dire quelle est la tendance qui se passe par rapport à ça. Les gens, les journalistes l'ont très bien suivi, mais c'est un des nombreux facteurs qu'on va suivre dans les tendances. Maintenant, je le répète, ça va envoyer des messages très clairs aux gens qui nous suivent de prévisibilité. Et ça, pour moi, c'est important. Bon, maintenant, Qu'est-ce que ça veut dire d'une approche qui est par palier? Si on passe du vert au jaune, soit ce qu'on appelle en mode pré-alerte, on pourrait avoir, par exemple, comme mesure supplémentaire, d'augmenter le contrôle de l'accès dans certains publics, en certains lieux publics, pardon. À partir du palier orange, on pourrait réduire le nombre de personnes dans les rassemblements privés. Je pense que ça, c'est évident. Au palier rouge, encore plus drastique, des mesures maximales pourraient être prises, par exemple, pour freiner la transmission. Je vous montre aussi, pas tout de suite, je pense qu'on pourrait faire cesser de façon permanente. Puis là, je vais prendre un risque de revenir ici. Attendez une minute. Je vais essayer quelque chose. Ici. Si vous voyez dans le bas de ce graphique-là, pour moi, c'est important. Parce que les mesures qu'on a annoncées, lorsque je vous disais qu'on était dans notre nouvelle normalité, il peut y avoir, vous voyez en bas, là, des ajustements de mesures additionnelles qu'on pourrait, au fur et à mesure, même si on reste dans le vert, d'ajuster certaines mesures. Je donnerai des exemples tout à l'heure, où on peut aussi avoir des mesures temporaires. Alors ça, pour moi, c'est important de le mentionner. J'avais peut-être oublié de le faire tout à l'heure. Bon, maintenant. Ça, c'est important. Ça, c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, le modèle que le docteur Litvak a développé avec la santé publique, avec toute l'équipe du docteur Arruda, on le teste depuis plusieurs semaines. Puis vous pouvez voir, je vais aller à la conclusion tout de suite, vous voyez qu'on parle ici de certaines régions qui ont déjà été dans le jaune. On peut penser à Montréal, on peut penser à la Lanaudière. Je regarde le graphique en même temps que vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours des dernières semaines, il y a eu des évolutions positives. Ça, c'est important, puis on pourra y revenir si vous voulez que je le remette à l'écran plus tard. Mais aujourd'hui, puis là, on y va par semaine. Si on regarde la semaine qui s'est terminée le samedi, toutes nos statistiques qui deviennent de plus en plus publiques sont toujours du dimanche au samedi. Alors, la semaine que vous voyez là, qui s'est terminée le 5 septembre, on a 4 régions du Québec qui sont dans le jaune, à savoir la Capitale-Nationale, l'Estrie, l'Outaouais et Laval. Bon. Si on le regarde sur une carte, c'est encore plus évident que ce n'est plus maintenant uniquement à Montréal, mais que c'est partout au Québec. Et c'est ça qu'il faut empêcher de faire, et ça sera mis à jour toutes les fois. J'aimerais parler ici rapidement aux élus municipaux, avec qui on a parlé beaucoup dans les derniers jours pour les avertir de ce qui allait arriver, puis du plan qu'on préparait, qu'on présentait aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de collaboration, puis je vais prendre une petite pause ici, là. Il y a eu beaucoup de collaboration entre les santé publiques régionales dans la première vague, de parler soit avec les PDG des SUS et des CIS, entre les autorités régionales et les élus municipaux. À la lumière de où on est en ce moment, je pense qu'il faut reprendre ces discussions-là avec les santé publiques régionales pour leur expliquer. Moi, si je suis le maire de Laval ce matin ou le maire de l'Outaouais, ces élus-là municipaux vont être pris en contact dans les prochaines heures avec les santé publiques régionales pour leur expliquer en détail le modèle, puis pour dire bien, comment on pourrait faire pour revenir dans le vert, quels sont nos leviers, etc. Je n'irai pas trop dans le détail avec ça, mais c'est une demande qu'on a eue. J'en ai parlé beaucoup avec le docteur Arruda puis avec M. Litvak. Ça va se faire dans les prochaines heures pour être certain d'être capable de l'expliquer. En conclusion, ceux qui en douteraient, là, le virus y est vraiment là. Le virus est vraiment encore présent. La contamination, elle est communautaire. Et parce qu'elle est communautaire, elle se propage dans nos milieux de vie et dans nos milieux de soins, jusque dans nos écoles. Je le répète, la contamination, elle est communautaire. Cette contamination-là communautaire a un impact sur nos milieux de vie, sur nos milieux de soins, et sur nos écoles. Alors, le gouvernement, on s'est concentré à sécuriser nos milieux de vie, nos hôpitaux, nos écoles, pour qu'on prenne une vie plus normale. Maintenant, par contre, les Québécois, nous sommes chacun responsables de nos actes pour que le virus se propage le moins possible. Et ça, pour moi, c'est important. Tout à l'heure, j'ai parlé de visibilité, et là, je reviens sur la responsabilité. C'est la responsabilité qui est importante ici. Parce que, dans le fond, c'est gagnant-gagnant. En restant dans le vert, en respectant les consignes sanitaires, on empêche le virus de s'infiltrer dans nos écoles, dans nos milieux de vie, et on protège aussi notre système de santé. On le sait qu'il a été fragilisé. Mais en plus, on s'assure de pouvoir continuer nos activités avec une certaine normalité. Pour moi, la solution, elle est simple. Et dans chacune des régions, la solution est entre nos mains. Puis je ne ferai pas de mauvais jeu de mots en disant qu'il ne faut pas s'en laver les mains. Il faut justement continuer à se laver les mains. Tous les Québécois ont le pouvoir, et ça je veux le dire très doucement, tous les Québécois aujourd'hui, avec l'analyse qu'on vient de faire, ont le pouvoir de combattre le virus et chacun peut faire la différence. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots en anglais.
Bon, alors, il a dit beaucoup de choses, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il nous présentait donc ce nouveau système d'alerte régionale à 4 paliers. Palier 1, on vous parlait là, de l'espèce de feu de circulation. Là, on pensait qu'il y était un code de 3 couleurs. En fait, il y en a 4 parce qu'ils ont rajouté le orange. Donc, le premier palier, le vert. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on pense que quand c'est vert, il n'y a pas de problème. C'est business as usual. Or, pour le gouvernement et pour Christian Dubé, ministre de la Santé, le vert, c'est un état de vigilance. C'est vraiment le premier palier. L'état qui suit, c'est la préalerte. Ça serait donc un palier qui nous amène en jaune. Il a préciser qu'en ce moment, au Québec, en date du 5 septembre, donc il y a 3 jours, on en était à 4 régions du Québec là, qui étaient donc sous alerte jaune, en préalerte de couleur jaune. Et là, ensuite, il parle d'intensification progressive. Il va y avoir l'alerte modérée, qui, elle, serait orange, et là, l'alerte maximale en rouge, qui amènerait à une sorte de reconfinement, finalement, avec toutes sortes de mesures différentes. Il rappelait, et on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure, tout de suite après le docteur Arruda, qui à son tour va présenter ce plan-là, il va en discuter. Mais il semble que pour le docteur Arruda, on fasse en ce moment face à des vaguelettes. Après les gouttelettes, les vaguelettes, Christian Dubé disait l'évolution du virus et l'évolution de la pandémie n'est pas la même partout en ce moment. Ce qui veut dire que le resserrement des mesures sanitaires va se faire selon ces niveaux-là. L'évolution n'est pas partout pareille et le respect des mesures, a dit le ministre, n'est pas le même partout non plus. On l'a vu avec les bateaux en fin de semaine. On a vu que le karaoké la semaine dernière. Bref, c'est pas tout le monde qui a compris la même chose. Et pourtant, il l'a dit en dernier, vous avez entendu, là. Il a dit « Tous les Québécois ont le pouvoir de faire en sorte qu'on contrôle la situation. » Il dit « Notre nouvelle normalité, là, c'est ces mesures sanitaires de base. » Personne ne veut retourner à un confinement. Puis ça, là, il y a tellement raison, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Personne veut retourner à un reconfinement. Et qu'est-ce que le gouvernement veut faire avec cette stratégie de système d'alerte régionale et d'intervention à 4 paliers, c'est comme ça qu'ils l'appellent? Ils veulent se servir de cet outil-là pour répondre à 2 objectifs très importants pour le gouvernement de François Legault. 1, on veut mieux prévoir. On veut savoir, bon, qu'est-ce qui nous pend au nez? Qu'est-ce qui s'en vient? Une espèce de prévisibilité, là. Ensuite, ben, aider les gens à se responsabiliser. Puis ça, je pense que le point 2, il est aussi important que le point 1, sinon plus, parce que c'est là où ça va être difficile de contrôler. Si jamais il y a des régions qui veulent rien savoir ou certaines personnes dans des régions qui maintiennent la dangerosité, le fait qu'il y ait des éclosions. On est en période de questions en ce moment. Évidemment, Christian Dubé va y répondre. On va aller à la conférence de presse, si vous voulez bien.
Plus sur une moyenne mobile de 7 jours. Il y a 120 écoles qui sont maintenant touchées par au moins un cas. J'aimerais vous poser la question à vous, M. Dubé, à M. Arruda aussi. Quel est votre niveau, on parle beaucoup de niveau aujourd'hui, là, quel est votre niveau d'inquiétude aujourd'hui face à la suite des choses, si on veut?
Bon. Bien, je pense que la première chose, je vous l'ai dit, je ne vous le cacherai pas, je suis de tempérament inquiet, mais constructif. Alors, ce système-là qu'on vous propose aujourd'hui, qu'on propose aux Québécois, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. On y travaille, l'équipe, je l'ai dit, là, c'est depuis plusieurs mois. D'ailleurs, vous voyez, j'ai remis le graphique à l'écran pour montrer comment ça a évolué. Une des raisons pour laquelle, puis vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, qu'on allait avec la moyenne mobile, c'est que ça peut changer très vite. Regardez, hier, on avait 215 cas. Aujourd'hui, on en a 163. Je prends ça avec un grain de sel, parce qu'on est les jours suivants, un long week-end. Est-ce que tous les tests sont rentrés? Il y a beaucoup de facteurs. Donc, il faut prendre du recul. Et c'est pour ça qu'on regarde un ensemble de critères. Je pense que ce qu'on donne aux Québécois aujourd'hui, puis j'apprécie votre question, moi, pour moi, le nombre de cas par million d'habitants, c'est un des facteurs. On vous avait dit, ça, on le regarde, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le nombre d'éclosions aussi. Je vous dirais, puis après ça, je pourrais passer la parole, mais je vous avais dit la semaine dernière que ce qui nous inquiétait dans les dernières semaines, c'était le nombre d'éclosions. J'avais comparé ça aux petits feux de Bousquet, puis j'ai dit, plus il va y avoir de ces feux de Bousquet-là, plus ça devient difficile pour ces gens-là de contrôler les... Moi, je suis encore plus inquiet de cette partie-là. Donc, du nombre d'éclosions et de la taille. Et ça, c'est dans le deuxième critère que j'expliquais tout à l'heure. J'arrête ça là pour vous dire que c'est pour ça que dans nos quatre régions qu'on présente aujourd'hui, il y a assez de ces conditions-là pour les mettre en mode de surveillance.
Peut-être... Micro 2.
Rapidement, le ministre l'a bien expliqué, mais il faut comprendre que, comme on le dit, c'est toute une série de critères. Quand on voit un patient, par exemple, puis on dit la tension artérielle est à 140 sur 90, on ne va pas seulement faire ça, on va faire d'autres examens pour être capable de vérifier si c'est un diabétique, tu sais, c'est selon le type de patient. Donc, c'est la même analyse qui est faite, puis indépendamment même, pour être encore plus réactif que les données, avec les directeurs de santé publique, on a des conversations qui peuvent être aux deux, trois fois par semaine, jusqu'à tous les jours, pour voir eux autres qu'est-ce qu'ils détectent en termes de phénomène. C'est vrai qu'il y a 120 écoles actuellement où il y a un cas, mais c'est des cas qui sont venus de la communauté dans l'école et c'est pas la transmission dans les écoles. S'il se met à avoir de la transmission, là, c'est autre chose et c'est comme ça qu'on va ajuster les éléments. Mais ce que la population doit retenir, elle, pour elle, c'est que si sa région est dans le palier vert, il faut continuer les bons efforts pour pas aller dans le jaune. Mais si elle est dans le jaune, il faut multiplier les efforts. Le masque, la distanciation, les parties, il faut ralentir ça. Fait que dans le fond, là, avec ces paliers-là, la population peut se dire, puis je vais vous dire tout de suite, là, puisque le ministre dit, puis je l'ai dit en Côte-Nord, puis à Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de cas là-bas qu'il ne faut pas qu'ils pensent que le virus est là. Le virus, il est présent, c'est un traître, il va nous frapper dans le dos. Donc, il faut mettre ces paliers-là. Puis là, la population peut savoir, ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans le vert, qu'il faut arrêter de prendre des mesures. Ça veut dire qu'il faut les maintenir pour ne pas passer au jaune. Et l'espérance qu'on a, comme disait le ministre, c'est qu'on peut être dans le jaune puis revenir dans le vert parce qu'on a réussi à contrôler l'éclosion qui est là. Puis on a besoin de la population. Puis dernier message, si vous me permettez, quand les équipes de santé publique vous appellent parce que vous avez été en contact avec un cas ou qu'il faut dire les contacts que vous avez eus, il faut collaborer. Parce que c'est comme ça qu'on peut couper la chaîne de transmission puis empêcher les petits bosquets de devenir un feu de forêt dans Québec ou ailleurs.
Micro 2.
La semaine dernière, la mairesse de Montréal disait l'île de Montréal, ce n'est pas une seule et même réalité. Il y a des réalités qui sont différentes d'arrondissement en arrondissement et tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, votre code de couleur pourrait s'appliquer, par exemple, à une sous-région, un quartier de Montréal? Et concernant les quatre régions, parce que là, je comprends que pour le moment, ce sont vraiment des régions administratives, est-ce que, parce qu'on disait qu'à partir du moment où on était en jaune, il pourrait y avoir contrôle d'accès de certains lieux publics, est-ce que déjà pour ces quatre régions-là, il y a des mesures qui sont en place? Comment ces codes-là seront connus par les gens concernés? Est-ce que les policiers seront appelés peut-être à collaborer pour faire appliquer des mesures?
Bon, là, c'est un bon truc. Vous avez deux questions dans votre question. Là. Je pense que c'est correct. Vous avez le droit de faire ça, puis je vais essayer de répondre aux deux. Bon. Pour ce qui est de Montréal, je vais appeler ça sous-région à l'intérieur des régions, c'est évident que quand je regarde des régions comme, quand je regarde Montréal ou des régions comme la Montérégie, où il y a plus qu'1,5 million d'habitants, qui est très large. Quand on pense à les Laurentides avec les Hautes puis les Basses-Laurentides, oui, on travaille avec nos 18 régions qu'on a montrées, mais c'est sûr qu'il va falloir aller dans des sous-régions parce que les conditions peuvent être très différentes. Là, aujourd'hui, on vous présente ça, mais à l'intérieur des équipes, il va y avoir des discussions. Puis, j'en ai parlé pas plus tard qu'hier avec Mme Plante, parce qu'on a à l'intérieur de Montréal des différences importantes dont il va falloir tenir compte. Si jamais, là, la bonne nouvelle, c'est que Montréal, puis moi, je suis très content pour Montréal en ce moment, qu'on soit encore dans le vert, mais on sait où il faut faire attention. On les connaît, les sous-régions, où il faut être prudent. Donc, oui, votre question est très à propos. On va avoir des sous-régions, puis on va en tenir compte. Ça, c'est pour le premier aspect de votre question. Bon. Sur sur la deuxième, écoutez, c'est tellement... Comment je vous dirais ça, donc? Je vais répéter ce que j'ai dit. Il faut absolument, puis peut-être que je ne suis pas assez précis, puis n'hésitez pas à me le redemander, là. Mais il faut absolument que les gens comprennent que c'est leur rôle. Je ne sais pas si je l'ai assez dit ce matin, là. Mais il faut que les gens comprennent que c'est leur rôle. Et si on est capable de passer ce message-là, je l'ai trop vu dans des cas là, des derniers jours, puis on en parle beaucoup à l'interne. Fait que je sais que peut-être que je ne réponds pas à votre question, là. Mais vous avez le droit de poser.
Ben, pour les gens de Laval, de la capitale nationale, de l'Estrie, de l'Outaouais, là, ils apprennent qu'ils sont dans le code jaune. Est-ce que pour eux, ça veut dire des restrictions qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant? Est-ce que de quelle façon ça va être appliqué, en fait? Est-ce que ce sont les policiers qui vont être mis à contribution? Comment ces gens-là vont le savoir, ceux qui ne seraient pas, par exemple, à l'écoute?
J'ai des réponses que je peux... Bon, je vais être plus direct, d'abord. Il y a des réponses que je peux vous donner aujourd'hui de ce que ça applique, ce que ça implique pour ces régions-là. Je vais revenir ici. Dans le niveau jaune, quand on parle de mesures de base qui sont renforcées, bien, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'inspections. Bon, ça, pour moi, c'est très clair. Des inspections qui nous viennent de... Puis ça, je peux vous le dire aujourd'hui, là. Il va y avoir plus d'inspections qui vont nous venir de la CNEST ou qui vont nous venir, par exemple, de Santé publique avec les équipes. Mais on est... Ce qui nous reste à clarifier, deux choses, avec la sécurité publique, donc avec le groupe dont... Notre vice-première ministre est responsable. Elle va annoncer dans les prochains jours des mesures plus coercitives. Là. J'aime pas le mot, mais on a dit qu'on avait été assez patient durant l'été, parce que c'était l'été, puis on avait vu qu'il n'y avait pas de contamination importante. Ce que Mme Guilbeault est en train de regarder avec son équipe en ce moment, c'est comment elle va arrimer une progression de ces mesures-là avec notre code de couleur. Donc, ce que je suis assez clair, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous les donner, mais on l'a vu dans les derniers jours, on a déjà commencé à donner plus de pénalités, de contraventions, parce qu'on savait que dans le jaune, on devait commencer à le faire. Donc, là, je suis beaucoup plus précis. C'est pas pour être, je dirais, de viser ces régions-là, parce qu'on le voit souvent, c'est tellement limité à un petit nombre d'individus que je ne veux pas blâmer la région, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pour ça que je suis très prudent.
Alors voilà, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé. Intéressant, sa dernière phrase, là. Il vient de nous dire là, que Geneviève Guilbeault est en train, la ministre de la Sécurité publique, va annoncer des mesures plus coercitives pour aller en progression là, avec le code couleur. On va s'arrêter ici, nous, on prend une pause. Il y a les nouvelles, bien sûr. Et tout de suite après, vous aurez l'occasion d'intervenir, de donner votre opinion sur ce que vient d'annoncer le ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan là, à quatre couleurs, finalement? Ça passe du à l'alerte maximale rouge. J'ai très hâte de vous entendre là-dessus. Je vous présenterai également des invités qui vont réagir à leur tour. 514-790-9850, 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde.